Bonjour Georges Sebag.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Mola. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivain, docteur en philosophie, commissaire d'expo aussi, et vous êtes spécialiste du surréalisme. Vous avez d'ailleurs connu André Breton et participé aux activités du groupe surréaliste jusqu'à sa dissolution en 1969. Vous êtes aussi l'auteur de très nombreux livres sur le surréalisme. On peut citer l'imprononçable le jour de sa naissance, André Breton, l'imprononçable jour de sa mort, Jacques Vacher, l'amour-folie, André Breton, l'amour-folie, que vous avez écrit, et un bel ouvrage aussi consacré à Document, Bataille, Léris, Epstein, le moment document. Et on vous doit récemment, aux éditions Jean-Michel Place, les éditions commentées de 10 cahiers surréalistes en 2021, et cette année de Poisson soluble, le manuscrit, et de Le manifeste du surréaliste, le manuscrit. Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Surréalisme, le rayon invisible, centenaire millénaire », qui est un livre somme, un livre collage de tout ce que vous avez pu écrire sur le surréalisme et qui n'est pas une histoire chronologique du surréalisme, mais une tentative d'expliciter les procédés, les normes qui fondent le surréalisme, comme le hasard objectif, l'écriture automatique, le collage, les durées automatiques, le temps sans fil. Autant de concepts qui définissent pour vous le surréalisme. Aussi, la première question que je voudrais vous poser, c'est, puisqu'à un moment dans le livre, vous qualifiez le groupe surréaliste d'une association de collagistes à la recherche de durée automatique au gré d'un temps sans fil. D'abord, qu'est-ce que c'est que le collagisme ?
Le collagisme, c'est un terme qu'on pourrait rattacher à l'histoire de l'art, des papiers collés, par exemple de Picasso, hein. Mais en réalité, et aussi, il y a des collages chez les Dada. Cependant, les surréalistes ont, je pense, inventé un collage particulier. D'abord sur le plan matériel et formel, ils ont inventé, là justement j'y insiste beaucoup à propos de Poisson soluble, le poème collage. Et d'ailleurs André Breton, avant de s'exercer au poème collage, le poème collage de Poisson soluble est tiré des journaux. Mais auparavant, il avait inventé un poème collage simplement en empruntant à des amis ou à tel ou tel auteur telle ou telle phrase. C'est-à-dire qu'il avait rassemblé des éléments qui ne lui appartenaient pas. Lui-même a dit à ce moment-là, c'est en 1918, qu'il faisait appel à des contributions indirectes. Lui-même, c'est une sorte de percepteur de contributions indirectes, à la manière d'ailleurs d'Isidore Ducasse, qui était quelqu'un qui honorait le plagiat. Donc le collage surréaliste, soit dans le poème collage de la première mouture de Breton, soit aussi dans les lettres collages, c'est une chose très ignorée, mais que Breton, en 1918, envoyait à ses amis des informations. En 1918, on est en pleine guerre, c'est la fin de la guerre, enfin, il envoyait à ses amis des informations le concernant, et pour ça, il découpait dans les journaux un certain nombre d'éléments, mais aussi, il prenait ici ou là, par exemple, du papier à cigarette et autre chose. Donc, le collage surréaliste existe sur le plan matériel dès le départ, et il va s'amplifier, en particulier dans Poisson soluble, en 1924. Et même, je dirais qu'il y a une deuxième forme de collage que j'appelle le collage passionnel. Donc, il y a le collage matériel, c'est le collage artistique assez connu. Bon, mais chez les surréalistes, il a sa particularité. Il y a aussi le collage passionnel, c'est-à-dire le fait que le groupe surréaliste forme lui-même une réunion de personnes selon des affinités. Alors, ce collage passionnel va tantôt réunir deux personnes, des duos, parfois des trios, parfois des quatuors, et ce collage est parfois amoureux, et il y a aussi, bien entendu, des dissensions. Et puis, il y a une troisième forme de collage que j'appelle le collage temporel, et ce collage temporel, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, à savoir une notion clé dans le surréalisme, c'est le hasard objectif. Donc, le collage temporel, ça consiste à évoquer des éléments, des événements qui, au première vue n'ont aucun rapport les uns avec les autres, puisqu'ils sont souvent très distants dans le temps. Et il se trouve que ces événements, si on les rapproche, il y a une sorte de coïncidence qui se produit entre eux. Et c'est ce que c'est d'ailleurs peut-être la particularité du surréalisme, c'est de s'intéresser à ces collages temporels dans le cadre du hasard objectif.
Justement, pour revenir à votre livre, au titre du livre, enfin plutôt le sous-titre, vous dites centenaire millénaire. Donc on fête aujourd'hui les 100 ans, enfin le Centre Pompidou fête les 100 ans du surréalisme. Est-ce que le surréalisme est né vraiment en 1924? Quand est-il né?
Bien, justement, enfin, mon premier livre, j'avais appelé L'imprononçable jour de ma naissance, ça concernait André Breton. André Breton, en somme, lui-même s'est donné deux jours de naissance, le 18 et le 19 février 1896. Soit en tant que natif des Poissons, c'est sa vraie date, soit en tant que natif du Verseau. Et bon, il y a aussi d'autres raisons. Et en fait, le surréalisme, en effet, on pourrait lui donner une date de naissance bien antérieure. Par exemple, comme André Breton, les initiales de son nom A et B, lorsqu'il signait André Breton, il s'est aperçu au début de 1924 que A, ça correspondait à un 17 et B à un 13. À partir de là, 1713 est devenu une date fétiche et lui-même s'est surnommé 1713. Donc il y a une capacité dans le surréalisme à se projeter dans le temps passé, mais aussi futur. Donc c'est pour cette raison que le surréalisme ne respecte pas la chronologie, le temps linéaire continu et nous permet d'aller ici et là. Et surtout, les surréalistes ont beaucoup insisté sur le fait que il y avait auparavant des gens qui étaient, pour ainsi dire, des parasurréalistes, des surréalistes avant eux. Et bien entendu, enfin, on sait très bien que celui qu'ils ont mis vraiment tout à fait en avant, qui n'était pas trop connu, c'est Lautréamont, Isidore Ducasse, par exemple. Mais bien, il y a toute une généalogie à laquelle les surréalistes peuvent se rattacher. Mais il y a aussi, et c'est là l'idée peut-être du millénaire. Donc déjà, la question de la date de naissance, je dirais qu'elle est imprononçable. En effet, ça pourrait être, je pense, le tout début du surréalisme, c'est-à-dire lorsque, à la fin de 1918, André Breton, Jacques Vacher et Louis Aragon étaient sur le point de former un groupe. Mais il s'est trouvé que Jacques Vacher est mort. Il s'est trouvé que Apollinaire est mort. Et si Apollinaire n'était pas mort, si Jacques Vacher n'était pas mort, je pense que le destin du surréalisme aurait pu être très différent. Donc, on peut dater, en effet, la naissance du surréalisme de façon plus très classique, avec la parution du premier numéro de la revue Littérature en mars 1919. Bon, ça, Breton a tendance à aller dans ce sens. Bien que, bon, dans l'année 1920, il va y avoir une période dada. Mais enfin, c'est plutôt une parenthèse. Donc, on peut faire démarrer les choses à cette date-là, où je vous ai dit qu'on pouvait les faire démarrer en 1713. Mais, alors, on pourrait aussi, c'est pour d'où le titre millénaire, la révolution surréaliste, c'est le deuxième titre de revue des surréalistes. Après Littérature, en 1924, les surréalistes, l'année 1924 est très importante, en effet, c'est celle du manifeste. Donc on peut bien entendu dire que le surréalisme est né en 1924 aussi. Mais ça, c'est une date, pour ainsi dire, officielle. Or, justement, à propos du centenaire et du millénaire, c'est que si je prends la révolution surréaliste, le premier numéro de décembre 24, le dernier de décembre 1929, en 29, il y a une sorte de crise au sein du groupe. Vraiment, les choses ne vont plus un peu sur le plan affectif en particulier. André Breton est en train de divorcer d'avec Simone, avec qui il avait beaucoup soutenu. Et ça, sur le plan affectif, ça va avoir des conséquences terribles. Mais aussi sur le plan un peu politique, la conception de Desnos et de Breton n'est pas la même concernant le rapport avec le Parti communiste et autres. Donc dans ce cadre, en 1929, Breton, pour le dernier numéro de la Révolution surréaliste, alors qu'il est en train d'écrire il écrit, puisque le second manifeste du surréalisme, qui paraît en prépublication dans le dernier numéro de la Revue Surréaliste en décembre 1929. Donc, si on prend le dernier numéro, à la dernière page, il y a un placard sur lequel on peut lire « Millénaire du surréalisme » et en dessous, entre parenthèses, 929, mort de Charles Le Simple. C'est une sorte de boutade, ou c'est une sorte de plaisanterie, ou de bon, mais cette plaisanterie, ça consiste à dire mort de Charles Le Simple. Charles Le Simple, c'est une sorte de roi qui est pas de France, qui d'ailleurs, au moment où il est mort, il n'est plus roi, et puis il ne règne pas sur toute la France. Mais c'est une façon de montrer que le surréalisme peut très bien se projeter très loin dans le passé.
Se répète aussi en 1916 avec la rencontre avec Jacques Vacher.
Oui, non, c'est bien sûr. C'est je pense que la rencontre avec Jacques Vacher est clairement significative, hein, puisqu'avec Jacques Vacher, la question de l'humour va être posée. Et par exemple, en décembre 1919, Breton va lancer l'idée d'une enquête sur l'humour. Et justement, dans une lettre collage qu'il envoie à Vacher, le 13 janvier 1919, il ne sait pas que Vacher est mort la semaine précédente. Hein. Jacques Vacher est mort à Nantes, hein, c'est un soldat qui a absorbé un peu trop d'opium avec un autre soldat dans sa chambre d'hôtel. Breton ne sait pas cela, et il lui envoie une lettre collage, justement, et dans cette lettre collage, il donne des premières réponses à une enquête sur l'humour. Et il va de soi que la question de l'humour, c'est Jacques Vacher qui l'a posée, et Breton, par la suite, va lui rendre hommage à la fin des années 30, quand il va composer l'anthologie de l'humour noir, par exemple. Donc, en effet, quand vous dites que on pourrait dater le départ du surréalisme en 1916, pourquoi pas?
Votre livre a aussi comme titre « Le rayon invisible ». Mais qu'est-ce que c'est que ce rayon invisible?
Eh bien, justement, c'est à propos des poèmes collages. Voilà, ce qui se passe, la chose importante, c'est de voir qu'avant la publication du Manifeste du surréalisme en octobre 1924, au printemps 1924, toutes les personnes qui ont beaucoup collaboré à la revue Littérature se réunissent. Breton les réunit lors de plusieurs sessions, surtout en avril 1924, mais ça démarre en mars, avril et mai 1924. Et là, il leur distribue des cahiers dans lesquels tous les surréalistes, ça va être une quinzaine, vont faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire la première création proprement surréaliste, qui date de 1919, avec la collaboration de Soupeau et Breton, les champs magnétiques. Eh bien, tous les surréalistes vont faire de l'écriture et des poèmes collages. C'est-à-dire qu'ils vont, à partir de piles de journaux, découper un certain nombre de choses dans les journaux et fabriquer ces poèmes collages. Eh bien, le rayon invisible, c'est un article de journal que Breton lui-même a découpé et qui date de cette époque, d'avril 1924, et qui nous raconte qu'un savant anglais vient de découvrir un rayon invisible qui est capable de dérégler les moteurs électriques à 20 mètres. Le journaliste qui raconte ça est allé dans le laboratoire de ce savant anglais et il a observé que le moteur électrique était fichu, et aussi que on pouvait des animaux à 20 mètres de distance pouvaient être massacrés. Donc, ce rayon invisible, Breton va reprendre d'ailleurs cette expression de rayon invisible à la fin du manifeste du surréalisme, en disant que le surréalisme, c'est le rayon invisible qui va nous permettre de vaincre nos adversaires. Hein, voilà. Donc, la notion de rayon invisible, c'est un emprunt à l'actualité technique, scientifique de l'époque. D'ailleurs, dans le surréalisme et dans le manifeste du surréalisme, il y a plusieurs éléments concernant inventions techniques, scientifiques. Le sans-fil, qu'est-ce que c'est que le sans-fil? C'est la radio qui, depuis 1922, est maintenant écoutée par un certain nombre de gens, hein, qu'on appelle des sans-filistes, donc qui ont la possibilité d'écouter des émissions. Et Breton lui-même va découper dans les journaux, dans ses poèmes collages de cette époque, du printemps 1924, va découper deux articles relatifs à ses chroniques de sans-fil, du sans-fil. Et du sans-fil, lui-même va en faire un usage très important, mais pas dans le manifeste du surréalisme, mais juste très peu de temps par la suite, en février-mars 1925, dans l'introduction au discours sur le peu de réalité. Et sans ce texte très important, qui est une sorte de texte métaphysique très profond, commence par l'expression sans-fil, et c'est cette expression-là qui va lui permettre deux ou trois lignes par la suite d'écrire cette phrase devenue emblématique et que maintenant beaucoup de gens connaissent, à savoir « Je cherche l'or du temps ». Voilà, le surréalisme peut se résumer aussi dans cette formule et qui montre bien que l'aspect temporel est essentiel dans le surréalisme.
Justement, est-ce que vous pouvez développer, c'est quoi ce rapport au temps qui est très différent de tous les avant-gardes et peut-être aussi qui est connecté aussi à des recherches de l'époque? Alors, vous citez Bergson, vous citez Proust. Enfin, c'est quoi ce rapport au temps, effectivement, qui est spécifique au surréalisme? Vous évoquez à un moment des durées automatiques ou des durées surréalistes. Qu'est-ce que c'est que ces durées automatiques?
Voilà. Alors, j'ai tendance à bien, contrairement à je dirais la description la plus répandue sur le plan universitaire, j'ai tendance à dire que le surréalisme n'est pas une avant-garde, parce qu'une avant-garde, c'est un mouvement militant politique qui vise plus ou moins d'ailleurs un certain pouvoir, hein, et qui veut avoir des prosélytes et qui veut entraîner d'autres personnes dans une voie qui peut être poétique, mais aussi politique. Le surréalisme n'est pas une avant-garde, parce que l'avant-garde, ça rentre dans une conception moderne d'un temps qui progresse. On est là dans la philosophie de l'histoire hegelienne, à savoir que le mouvement de l'histoire, c'est un mouvement ascendant qui n'en finit pas, et l'esprit peu à peu va se réaliser. Le marxisme a pris le relais à travers le communisme de cette idée hegelienne. Bon, le temps continu, progressif, qui est cumulatif, etc. Eh bien, je pense que le surréalisme rompt avec cette idée. Et donc nous entraîne dans un temps en somme beaucoup plus énigmatique, parce que il nous permet de nous intéresser autant au passé, au présent qu'au futur. Pour bien faire la distinction entre le surréalisme et les autres mouvements de l'époque, je pense qu'il faut dire que les futuristes s'intéressaient au futur, les dadas s'intéressaient au moment présent, et les surréalistes, eux, vont jouer sur les trois dimensions du temps, passé, futur, présent. Et c'est pourquoi l'expression sans fil s'impose alors. Donc la notion de durée automatique, c'est l'idée que quand on réunit des événements qui appartiennent à des dates différentes, et qu'on les réunit, eh bien, on va en quelque sorte avoir là une coagulation, une réunion qui va nous fasciner, nous intéresser, et qui va, pour ainsi dire, avoir ce qui est propre, par exemple, à la durée bergsonienne, l'idée qu'on a affaire à quelque chose qui ne disparaît pas. Le mot durée est utilisé par Bergson justement pour dire que les choses durent, qu'elles ne s'évanouissent pas. Toutes les conceptions linéaires, continues du temps, sont des conceptions qui sont faites pour dire que le temps, c'est une dissipation, c'est une annihilation. Les choses existent puis disparaissent. Non, l'idée de durée automatique, c'est l'idée qu'il est possible de réunir des éléments qui vont aboutir à une durée qui va nous magnétiser, qui va nous fasciner et qui, en ce sens, va nous captiver. Et c'est en ce sens qu'on est proche de Bergson, de Proust, etc. Mais il y a une autre relation qui montre qu'il y a là, chez les surréalistes, une anticipation des phénomènes actuels, modernes, qui se sont produits maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années, à savoir que, et là, le surréalisme, il faut bien le dire, est l'héritier du cinéma. Le surréalisme est né avec le cinéma aussi, bien entendu. Le cinéma a déjà élaboré, lorsqu'il a construit ses films, il a élaboré des durées qui étaient faites pour être enregistrées et ne pas disparaître. Eh bien, d'une certaine façon, aujourd'hui, à la portée d'un peu de tout le monde, nous avons la possibilité de fabriquer, de devenir nous-mêmes des metteurs en scène, des vidéastes et de composer ce que j'appelle des micro-durées. Donc, c'est pourquoi le surréalisme nous parle. Je pense que l'expérience collective, intense, artistique, esthétique, métaphysique et aussi amoureuse, poétique des surréalistes, s'est intéressée, tout cela a été d'une certaine façon approché dans des recherches très diverses de la part des surréalistes. Ces recherches qui pouvaient porter sur le rêve, qui pouvaient porter sur par exemple, l'idée qu'on pourrait réévaluer ce qu'on appelle les objets. Auparavant dans l'art, il y avait la peinture, la sculpture. Les surréalistes se sont mis à penser qu'il pouvait y avoir que différents objets pouvaient nous intéresser au plus haut point. Et même un petit peu avant eux, Marcel Duchamp a mis sur le terrain les ready-made, c'est-à-dire un objet quelconque, un artefact quelconque qu'on pourrait considérer comme valant quasiment un objet d'art.
Vous avez parlé tout à l'heure de métaphysique. Effectivement, le surréalisme est un mouvement littéraire, artistique, mais il y a une dimension philosophique qui est très importante, qui peut-être qu'on ne connaît pas ou qui n'est pas assez développée.
Oui, voilà, c'est d'ailleurs un peu le point sur lequel, enfin, je pense, ça a été un peu mon apport là, ces dernières années, justement en insistant sur l'aspect temporel, sur le fait que les concepts nouveaux des surréalistes, consistent à appréhender la dimension qui de plus en plus nous importe, qui est celle du temps, étant donné que la dimension de l'espace, et c'est une dimension qui, dans notre globe terrestre, est une dimension qui se réduit d'ailleurs de plus en plus. Et étant donné d'ailleurs les facteurs de vitesse, de la technique, qui font que Et bien, l'espace qui pouvait nous apparaître infini, qui pouvait nous apparaître même merveilleux, étrange, avec une nature exubérante, etc. Et bien, maintenant, on a le sentiment que tout cela n'est pas facile à appréhender. Et c'est pourquoi nous avons de plus en plus des expériences temporelle. Bien, le surréalisme nous a, d'une certaine façon, mis sur cette voie. Et d'ailleurs, à ce propos, moi-même, sur le plan des rapprochements philosophiques, j'ai tendance à indiquer que dans les années 60, deux grands penseurs de la philosophie française, Gilles Deleuze et Michel Foucault, ont développé leurs propres analyses, en réalité, dans une imprégnation proprement surréaliste. Et, par exemple, Michel Foucault, lui-même, d'une certaine façon, l'a avoué, lorsqu'il a considéré que, après avoir écrit sa thèse qui est sur la déraison à l'âge classique, c'est-à-dire son histoire de la folie, s'est mis à écrire un ouvrage étincelant sur Raymond Roussel. Et Raymond Roussel, c'est aussi quelqu'un qui est en rapport direct avec le surréalisme, étant donné son intérêt profond pour les jeux de langage, pour le langage. Et le surréalisme, voilà, il y a dans le surréalisme des dimensions, je dirais, très différentes. J'ai parlé du temps, mais là, il faudrait insister aussi sur le langage. J'ai parlé de l'aspect collectif qui est essentiel, parce que c'est sans doute un des premiers, peut-être même le seul mouvement qui a permis à des poètes et des artistes de développer leur propre originalité, personnalité, dans un cadre, comme je disais tout à l'heure, de duo, de trio, et dans un cadre vraiment collectif. Donc c'est sous ces aspects très différents que on peut s'apercevoir que là, en somme, il y a une sorte de pensée surréaliste qui, je crois aujourd'hui, est un peu sous-jacente. Je viens de citer, il y a un relais qui est celui de Foucault et Deleuze. Il va peut-être y en avoir d'autres, voilà.
Pour rebondir sur cet aspect philosophique, est-ce que le point d'esprit qu'on trouve dans la citation qu'on trouve dans le second manifeste du surréalisme, ou le point sublime, ou le point d'indifférence, c'est aussi une notion philosophique très importante pour le surréalisme?
Oui, oui, justement, l'expression de le point de l'esprit, la détermination du point d'esprit, ou les éléments en somme contraires, les antinomies de la raison, hein, le haut et le bas, le passé et le futur, eh bien, sont surmontés, ne sont plus perçus comme vraiment contradictoires. Cette idée du point de l'esprit, Breton assez vite a compris qu'il y avait un aspect concret, en disant que ce point de l'esprit, en réalité, il pouvait être concrétisé à travers le point sublime, c'est-à-dire une expérience qui est celle de la contemplation de la nature. Il avait la chance, donc ça se passe en 31-32, il va dans les gorges, il se trouve à Castellane, et là, pas loin, il y a un point sublime qui donne sur les gorges du Verdon, et c'est de ce point sublime dont il parle. Moi-même, j'ai insisté sur le fait que il avait certainement fait un rapprochement entre le point sublime et le torrent Baou qui se trouve justement le torrent qui se déverse dans les gorges du Verdon avec ce torrent Baou. Il avait fait un rapprochement avec un poème qu'il connaissait très bien de Rimbaud, qui est le poème « Dévotion », dans lequel il y a le mot « Baou », un mot énigmatique, et il y avait aussi une personne féminine, Léonie au bois d'Ashby, et dans ce poème, Léonie au bois d'Ashby est suivi du mot « Baou ». Donc le Breton vit en quelque sorte dans le sublime de la nature. Cette recherche du point sublime, il a d'ailleurs réédité à plusieurs reprises. Quand il est allé aux Canaries, dans l'île de Tenerife, il a monté le volcan. Il y a eu cette ascension du Teide, et lui-même a été impressionné par ce paysage, ce Teide, qu'il a lui-même d'ailleurs fait. Il a effectué un rapprochement avec un château qu'il venait juste de visiter à Prague un mois auparavant. Donc Breton est familier de ces découvertes, dans la ville et dans la nature. Donc le point sublime, c'est le fait que à cette époque, les surréalistes considéraient que des révélations pouvaient très bien se produire non seulement dans la ville, puisque ça c'est le terrain de chasse ordinaire des surréalistes, vous n'avez qu'à penser aux paysans de Paris de Louis Aragon, et puis de tous les hasards qui se produisent dans la ville, la rencontre de Breton avec Nadja, etc. Donc la ville, c'est un lieu, c'est un peu l'enchantement de la rencontre possible. Mais la nature est aussi, représente aussi, et c'est le caractère sublime, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. La nature, c'est un élément qui nous dépasse. Bien, le fait de tenir des deux côtés, le sublime dans la nature et la merveille dans la ville, fait que le surréalisme peut être interprété d'ailleurs de différentes manières, ce qui fait que les uns vont l'entraîner du côté de l'occultisme, du côté... voyez, mais on peut très bien entendu, surtout, l'interpréter à partir d'un sentiment de la poésie et de la pensée qui sont intimement mêlées.
Tout à l'heure, vous avez parlé du rêve qui est très, très important pour les surréalistes. Est-ce que l'interprétation du rêve de Freud et l'invention de la psychanalyse ont été des sources d'inspiration pour les surréalistes?
Oui, c'est-à-dire que Breton, en 1916, il est infirmier militaire, il a une petite expérience à Saint-Dizier, il a eu l'occasion d'examiner des soldats qui sont complètement dérangés par ce qui leur arrive. Donc lui-même s'intéresse à la psychiatrie. Il pense d'ailleurs qu'il risque peut-être de devenir médecin psychiatre, ce qui ne sera pas le cas. Donc Freud, il en a eu quelques éléments, c'est certain. D'ailleurs, dans le manifeste du surréalisme, Freud est salué sans problème. Cependant, là encore, les surréalistes se distinguent par le fait que dans la revue Littérature et surtout dans la révolution surréaliste, donc pendant toutes les années 20, tous les membres du surréaliste vont pour ainsi dire raconter leur rêve. Donc le récit de rêve correspond à une sorte d'écriture qui leur paraît plus qu'intéressante. Hein. C'est un élément qui nous appartient et qui nous échappe. Et en ce sens, il faut en rendre compte. Et c'est pourquoi les uns et les autres se confessent, en quelque sorte, en racontant ces récits de rêve. Et c'est pourquoi, dans la même ligne, ils vont tenter plusieurs types de recherches. Hein, les sommeils hypnotiques, avec Robert Desnos, qui est plus ou moins endormi, à qui on pose des questions, et il va répondre soit par écrit, soit oralement. Donc il y a là, parallèlement à la psychanalyse, vraiment des tentatives de connaissance de notre psychisme. Il est certain qu'il y a non pas du tout du scientisme dans les surréalistes, puisqu'ils refusent le positivisme, mais il y a toujours cette notion de procès verbal, de recherche. C'est pourquoi ils vont avoir tendance à accumuler énormément de documents. Et documents que maintenant, nous avons la possibilité de réunir. Et par exemple, la possibilité que j'ai eue de publier les manuscrits de Poissons solubles et du manifeste du surréalisme, je trouve que 100 ans après, on a le sentiment, surtout quand on a ce livre qui réunit les 7 cahiers de Poissons solubles, dans lesquels Breton a écrit à l'encre verte, à l'encre violette, à l'encre noire, etc., mais aussi a mis ses poèmes collages, bien on a l'impression qu'on est en train de regarder par-dessus l'épaule d'André Breton, et c'est pas 100 ans après, c'est comme si c'était encore maintenant. Donc c'est ce document, vous voyez, l'histoire de Dur Automatique, je dirais, on pourrait presque l'appliquer à cet acte qui consiste à restituer un élément vivant et très fort qui nous parle. Donc ces deux manuscrits D'ailleurs, quand Breton, avec ses amis qui, au printemps de 1924, a fait ses expériences d'écriture automatique et de poèmes collage, André Breton s'est tout de suite posé la question de savoir, au fond, qu'avons-nous fait ? Et c'est à partir de là qu'il a décidé d'écrire le manifeste du surréalisme. Et d'ailleurs, Aragon lui-même, qui a aussi participé, écrivait, a fait de l'écriture automatique et des poèmes collages au même moment, lui s'est mis à écrire une vague de rêve. Voyez, une vague de rêve qui répond à la préoccupation concernant le rêve. Mais Breton a plutôt, dans le manifeste du surréalisme, essayé d'expliquer ce qu'était l'écriture automatique et le poème collage.
Et vous insistez aussi à dire que les surréalistes, à un moment où vous dites que les surréalistes ne peuvent être surréalistes qu'au quotidien. Qu'entendez-vous par ça ?
Ben, c'est-à-dire que la vie quotidienne, c'est la temporalité qui était celle des surréalistes de cette époque, des années 20, qui nous a poursuivis. Maintenant, j'aurais tendance à penser que cette temporalité s'est un peu disloquée, hein, parce que, étant donné que nous sommes entrés dans un temps beaucoup plus artificialisé, cette temporalité n'est pas vraiment là. Mais le côté quotidien des surréalistes, c'est sans doute l'élément, je dirais, indispensable à leur activité collective. C'est parce qu'ils se voient tous les jours. Ils se voient tous les jours au café. Même dans les années 20, ils se voient au café à midi, puis au café à 5 heures. Et même, il y a une troisième session qui est dans l'atelier d'André Breton. C'est ce troisième café, en quelque sorte. Donc, le fait de se voir si souvent, je dirais presque 7 jours sur 7, c'est un élément qui fait que la création et l'intérêt des uns pour les autres et des actions à envisager est possible. Notre timing, notre façon de vivre aujourd'hui dans les villes n'est plus du tout celle-là. Nous n'avons guère l'occasion de pouvoir nous rencontrer tous les jours à la même heure au café. Et c'est cette quotidienneté qui est à la fois peut-être, il y a là peut-être un aspect routinier, mais en réalité, c'est une condition, un peu de possibilité d'une certaine création et d'une manifestation collective.
Justement, vous parlez de création. Hein, les activités surréalistes étaient très riches, puisque on dénombre effectivement des éditions, des tracts, des jeux, des recherches. Est-ce que vous nous parlez de toute la richesse de l'activité des surréalistes?
Oui, en premier lieu, il y a la revue, parce que la revue, c'est la réunion des collaborations des uns et des autres. La plus souvent, ce sont les surréalistes qui, d'ailleurs, introduisent parfois, justement, par exemple, un texte de Freud. Hein. Mais les autres manifestations, vous avez parlé donc les tracts. Donc, comme la revue n'est pas si régulière que cela, il y a dans des interstices des moments où il faut quand même s'exprimer publiquement, d'où la possibilité d'écrire des tracts, c'est-à-dire de manifester publiquement le point de vue surréaliste à tel ou tel moment. La question de l'édition. Hein, les surréalistes ont été assez vite, acceptés par des éditeurs de renom, hein, les éditions Gallimard, la NRF. Hein. Mais parfois, certains problèmes se sont posés, ce qui fait que eux-mêmes ont songé, et ils ont d'ailleurs réalisé un certain nombre d'ouvrages sous leur propre étiquette, édition surréaliste. Ils ont même voulu, à un certain moment, en 1926, et pendant peu de temps, monter une galerie, la galerie surréaliste. Et puis une autre galerie, en 37, la galerie Gradiva. Bon, donc les surréalistes, en somme, financent, essaient de tout faire par eux-mêmes. Hein, mais parfois, cela n'est pas possible. Enfin, ce qui est certain, c'est que les surréalistes refusent, par exemple, d'être subventionnés. Vous voyez, il y a là l'idée d'une indépendance stricte et absolument nécessaire. Alors, ces manifestations, évidemment, les plus spectaculaires, ce sont les expositions internationales du surréalisme. Bon, les expositions personnelles de tel ou tel artiste surréaliste, parfois, comme j'ai dit, c'est la galerie surréaliste qui peut l'organiser, mais ce sont d'autres galeries, donc ce ne sont pas strictement parlé les surréalistes. Mais l'exposition internationale du surréalisme, c'est vraiment une création collective, hein, du groupe. Et d'ailleurs, dans une parmi les plus fameuses, il y a celle de 1938 à la galerie Beaux-Arts à Paris. Et là, des gens, Marcel Duchamp, par exemple, intervient de façon importante. Manet intervient, Dali intervient, enfin, tous les artistes de l'époque interviennent. Et là, par exemple, il y a l'idée dans cette galerie de transformer la galerie, de la rendre complètement opaque, de mettre au plafond 1200 sacs de charbon qui servent à contenir du charbon, hein, ce qui fait que c'est complètement opaque. Et pour le vernissage, mettre une sorte de brasero. Et le jour du vernissage, quelques tableaux qui sont ici et là, on donne aux spectateurs des lampes Mazda pour éclairer les tableaux. Et aussi, on fait intervenir une danseuse, Hélène Vanel, qui va exécuter une danse assez hystérique, il faut bien le dire, d'ailleurs, sur le thème de l'hystérie. Voilà, donc les expositions internationales du surréalisme, il faut bien dire, ça aussi, ce sont des expositions où les artistes surréalistes qui sont maintenant archi-connus et archi-cotés, en général, n'ont jamais rien vendu. C'est-à-dire que là, on a affaire à un déploiement d'idées, hein, et ce qu'on appelle maintenant très facilement une installation, bien ces installations, les surréalistes les avaient conçues, réalisées, exécutées dès les années 30.
Parmi les lieux du surréalisme, il y avait aussi le bureau de la recherche surréaliste qui était important.
Oui, alors justement, cette année 1924 est une année très effervescente. J'ai dit qu'au printemps, les surréalistes réunissent fond du poème collage et de l'écriture automatique. Eh bien, à partir du moment où ils savent qu'ils vont publier La Révolution surréaliste, le Manifeste du surréalisme et Une vague de rêve, ils ont l'idée de, dans un local, de se réunir, mais aussi de s'adresser au public, et là d'entamer ce qu'ils appellent un bureau de recherche, c'est-à-dire d'essayer de trouver de nouvelles idées, voire même de trouver chez les gens du public des idées auxquelles eux-mêmes n'auraient pas eu accès. Donc ce bureau de recherche, il va être confié assez vite à Antonin Artaud, parce qu'Antonin Artaud n'est pas en 1924, il n'est pas encore vraiment entré dans le groupe, mais à la fin de l'année, il va être assez présent pour que on lui fasse aussitôt confiance. Et Antonin Artaud, avec son énergie, son magnétisme, a voulu mener tambour battant ce bureau de recherche, qui a d'ailleurs donné un certain nombre de tracts assez célèbres qui vont être publiés dans la Révolution surréaliste, comme l'adresse au Dalai Lama, ou bien vous voyez, des textes qui consistent à dire qu'il faut ouvrir tous les prisons etc. Vraiment des textes très, très offensifs. Donc, le bureau de recherche sur Alice, c'est en quelque sorte la volonté, à un moment donné, que le groupe surréaliste expérimente auprès de gens qui ne sont pas spécialement proches d'eux, eh bien, expérimente des apports. Enfin, d'ailleurs, c'est une façon aussi de rencontrer de nouvelles personnes.
Oui, notamment, il faisait des recherches sur la sexualité, de nombreux thèmes, en fait, entre eux aussi.
Justement, le thème de la recherche, c'est un thème qui va se poursuivre. Bon, moi-même, j'ai tendance à penser que l'aspect personnel joue beaucoup. Lorsque Breton a rencontré Suzanne Musard, enfin, j'ai pensé que c'était un élément déterminant pour qu'il mette en avant, enfin, que se mettent en avant ces fameuses recherches sur la sexualité. C'est-à-dire que la notion de jeu est très importante. Donc, les SOS se voient, comme je l'ai dit, tous les jours, tous les soirs. Et parmi les jeux maintenant qui sont ultra connus, il y a le cadavre exquis, où le hasard, idée proprement surréaliste, intervient beaucoup. Donc, les jeux. Bon, c'est l'idée qu'on peut aborder un peu n'importe quoi. Et parmi les enquêtes que les surréalistes pouvaient faire à ce moment-là, on pouvait très bien se poser la question suivante, oui, concernant le futur. Quand va mourir un tel et un tel membre du groupe ? Ou même telle autre personne qui n'appartient pas au groupe, par exemple Paul Valéry, etc. Eh bien, ce sont des questions qui sont posées. On a là les questions, on a les réponses. Bon, bien, dans ce cadre-là, très intime, portant sur des questions, je dirais, personnelles, existentielles, la question de la sexualité s'est posée à un moment donné. D'où cette enquête. Ces enquêtes, ces séances qui se sont déroulées et dont une partie a été publiée dans la Révolution surréaliste. Donc on voit, par rapport à Freud, sans doute, ça n'est pas la doctrine de l'analyse ou de la psychanalyse qui a été adoptée, mais il n'empêche qu'il y a une sorte de pratique qui, peut prêter à discussion, on peut toujours se poser de la question de la sincérité, d'authenticité, des questions et des réponses, mais il n'empêche que il y a là une certaine audace, et je crois que ça fait partie un peu de ce paysage un peu actif et prenant, hein, qui est celui du groupe surréaliste.
Vous avez parlé tout à l'heure de la revue la révolution surréaliste. Justement, il y a révolution. Et quels ont été les liens entre le groupe surréaliste et le communisme? Une histoire un peu agitée.
Oui, alors justement, si vous voulez, le mot révolution surréaliste a été utilisé fin 1924. D'ailleurs, puisque c'est lié à Poisson Soluble, c'est Poisson Soluble qui a donné qui a ouvert la possibilité d'écrire le manifeste. En deuxième de couverture de la Révolution surréaliste, il y a un poisson qui est étiqueté surréalisme. Donc la question de la Révolution qui est posée, c'est la question de la... À ce moment-là, c'est la question non pas d'une révolution politique, pas du tout, mais c'est vraiment une question de la révolution de l'esprit. C'est une révolution de l'esprit et de l'esprit poisson soluble surréaliste. Hein. Quel est véritable son contenu? Bon, cette révolution de l'esprit, moi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est à travers ces pratiques de l'écriture automatique qui, d'une façon ou d'une autre, révèle notre langage, nos pensées profondes. Et Donc, cette révolution de l'esprit, c'est une révolution poétique du langage, mais aussi c'est une révolution du mécanisme proprement parlé de la pensée. Ce qui est en jeu, c'est quels sont nos modes de pensée. Est-ce qu'il faut nous en tenir à la logique d'Aristote, la logique binaire, qui est celle qui ou à la logique cartésienne, à la raison cartésienne, ou est-ce que on peut envisager une autre façon de penser, mais sachant qu'aussi le langage, notre connaissance intime du langage, peut nous y aider. Donc, lorsque l'expression révolution surréaliste a été posée, c'était pas du tout dans un sens politique. N'empêche, très vite, l'année d'après, en 1925, des éléments de l'histoire politique européenne, française, espagnole, la guerre du Rif, a fait que le groupe surréaliste s'est posé la question politique. Et d'où un tract, La Révolution d'abord et toujours, où les surréalistes et d'autres intellectuels de toutes sortes de milieux, mais en particulier d'un groupe très proche du Parti communiste, mais qui n'était pas entièrement, c'est là de la revue Clarté, hein, c'était des communistes qui des dissidents, donc intellectuels, communistes, surréalistes et même autres, un groupe philosophie qui sont des gens plutôt des mystiques, plus ou moins catholiques d'origine, eh bien, tous ces groupes se sont réunis sur une question politique, en effet, en essayant d'intervenir en tant qu'intellectuel dans le débat colonial et prenant une position très clairement anticoloniale. Voilà. Ça, c'est la chose est claire, la chose est dite. D'où la question qui s'est posée pour les surréalistes, savoir à la fin de 1925 si oui ou non ils étaient à un point tel de rapprochement avec les marxistes de Clarté qu'ils pouvaient fusionner, envisager d'ailleurs de former un groupe, voire même une nouvelle revue qui s'appellerait La Guerre civile. Donc il y a eu des négociations entre eux. Il y a eu des réunions, d'ailleurs un petit peu, faut bien le dire, c'est un peu folklorique parce que ça se faisait plus ou moins dans la clandestinité. Ils avaient peur de représailles, soit de l'État, soit même des instances communistes, enfin, etc. Et de façon très officielle, il était prévu que au printemps 26, il y aurait une nouvelle revue avec disparition de Clarté, disparition de la révolution surréaliste au profit de la guerre civile. Mais ça ne s'est pas produit. En effet, le problème, c'est que à partir du moment où on envisage clairement un rapprochement avec un parti politique, la question du rapport entre la poésie et la révolution se pose. Est-ce que des poètes, des artistes vont se mettre au service, voire même vont simplement reprendre les directives d'un programme politique, ou est-ce qu'ils vont exprimer ce qui correspond à la fois leur désir, leur mode de création et même de pensée? Et bien là, on peut dire que les surréalistes ont été, sur le plan un peu historique, le premier mouvement qui a rencontré l'orthodoxie d'un parti politique qui a par définition décidé de ne pas accepter des intellectuels, des poètes ou des artistes qui ne s'inscriraient pas clairement dans le dogme du parti. Donc la question s'est posée en 26 puis en 27 de savoir s'il fallait adhérer. Certains éléments du groupe surréaliste ont adhéré, mais peu à peu, il faut bien le dire, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, le fin mot de l'histoire, le fin mot de l'histoire, il se résume à peu près au fait suivant. C'est que André Breton a beau avoir... il a adhéré quelques mois à une cellule du Parti communiste, mais était tellement embêté par des pans du parti quand il faisait ses exposés, qu'il était dans la cellule du gaz, qu'il a renoncé, bon. Mais, donc, je veux dire, tout ça peut se résumer au fait suivant, c'est qu'un membre très important du groupe surréaliste, éminent du groupe surréaliste, je dirais s'il y a deux ou trois personnes importantes du groupe surréaliste, parmi eux, il y a Aragon. Bien, Aragon, en 1931-32, va prendre la tangente et va sortir du groupe surréaliste. Et en effet, c'est là où la cassure va se produire. C'est-à-dire, comme si il n'était pas possible de concilier la révolution et la poésie. La poésie et la révolution, au sens politique, purement politique, ce n'est pas considérable. Parce que, bien sûr, par la suite, Breton va rencontrer Trotsky et il va y avoir une déclaration fameuse où l'idée de liberté sera donnée entièrement aux poètes et aux artistes. Mais je me demande si ça ne s'agit pas là d'une pure question de... Je dirais une pure déclaration verbale, parce que le passage à l'acte est tout à fait difficile. C'est difficile pour un parti qui a ses prérogatives, ses pouvoirs, ses dogmes, de laisser germer en son sein des idées philosophiques, poétiques ou autres nouvelles.
Alors, peut-être une dernière question pour est-ce que le surréalisme, est-ce qu'il survit à la mort d'André Breton en 66, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'esprit surréaliste?
C'est-à-dire ce qui est paradoxal, c'est que si on fait une sorte de bilan un peu purement descriptif de ce qu'on appelle des groupes surréalistes, il se trouve que après la mort de Breton, un peu partout dans le monde, il en existait des, bien sûr, mais d'autres groupes sont nés, et sur les 5 continents. Donc si on pointait le nombre de groupes surréalistes aujourd'hui, ou de membres du groupe surréaliste ici et là, on aurait l'impression qu'on est passé de 1 à 5 ou 10, si on prend les chiffres de l'époque héroïque des années 20. Mais je pense que cette comptabilité n'est pas la plus importante. La chose importante, c'est l'ensemble, je dirais, du legs, ou même pas du legs, des œuvres surréalistes qui se trouvent en particulier dans les bibliothèques, tout simplement, dans les livres. Bien sûr, dans les musées, la consécration, elle est formidable, et dans les salles des ventes, elle est encore plus... Je dirais acclamé, hein, par les acheteurs et par les vendeurs aussi. Donc justement là, on est, il y a là une sorte de difficulté, c'est que le surréalisme culturel muséal a triomphé, mais je pense que l'esprit surréaliste reste à découvrir, et je pense qu'il reste à découvrir. La difficulté aujourd'hui, c'est que il reste à découvrir à une échelle un peu solitaire. individuelle. Parce que nous sommes entrés plutôt dans un monde où notre participation sociale est essentiellement de type individu. Nous sommes dans une société des individus du grand nombre. Tandis que les sociétés déjà des années 20 étaient encore des sociétés où les classes sociales, les groupes pouvaient se reconnaître à une échelle qui n'était pas celle d'un individu, mais vraiment d'un groupe. Par définition, le surréalisme, c'est le groupe. Donc, les découvertes aujourd'hui, même s'il y a des groupes surréalistes de par le monde, je crois que ce sont des découvertes qui vont se faire nécessairement à l'échelle de tel et tel individu. Ce que cet esprit surréaliste va devenir et va être repris par des individus par la suite, moi j'ai l'impression que cela, en effet, risque d'advenir. Cela peut advenir pour une raison, je dirais presque assez simple, c'est que si je faisais une sorte de comparaison, évidemment peut-être grossière, sur le plan de la culture artistique, poétique, philosophique, quels sont les mouvements qui, après le surréalisme de par le monde, se sont manifestés depuis. Si je prends simplement, j'arrête le surréalisme de façon un peu arbitraire, en 1970, par exemple, eh bien, je n'ai pas le sentiment que depuis 50 ans, on ait un exemple concret d'une culture équivalente qui nous donne envie d'y participer, de nous y référer. Donc c'est en ce sens que l'esprit surréaliste est en suspens et c'est à qui veut bien le prendre de s'y intéresser.
Merci, merci Georges Sabac.